Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Les trois grands titres de ce samedi, Stéphane Jeunesse, Stéphanie Rock.
La justice dépassée, résultat, la plupart des migrants de l'Océan Viking arrivés à Toulon la semaine dernière libérés et des milliers de personnes attendues dans toute la France cet après-midi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Les handballeuses tricolores éliminées par la Norvège en demi-finale de l'Euro, défaite 28-20.
La matinale week-end.
Une semaine après leur arrivée au port de Toulon, rien ne s'est passé comme prévu pour les 234 migrants de l'Océan Viking.
La plupart d'entre eux qui étaient retenus dans la zone d'attente de la presqu'île de Gien ont tout simplement été libérés, y compris ceux qui sont concernés par un avis défavorable émis par les services de l'immigration. La faute à un imbroglio juridique et surtout à une justice débordée, Guillaume Biais.
Ils sont libres de leur mouvement, ces 123 migrants pour lesquels la justice n'a pas eu les moyens de statuer dans les délais légaux. Le tribunal de Toulon puis la cour d'appel d'Aix devaient se prononcer sur leur maintien en zone d'attente, mais faute de magistrats et d'interprètes en nombre suffisant, impossible de respecter les délais de procédure. Ces 123 personnes originaires de différents pays n'ont donc plus d'obligation légale de rester en zone d'attente, mais dans le même temps, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, qui a pu en parallèle examiner leur situation individuelle depuis une semaine. Avis défavorable à leur entrée sur le territoire. En théorie, les autorités pourraient prononcer leur expulsion. C'est ce qu'avait laissé entendre le ministre de l'Intérieur en début de semaine. À moins que ces migrants ne lancent des recours suspensifs. Ils ont un mois pour le faire.
Explication de Guillaume Biais, chef du service police-justice de RMC.
Est-ce une faillite politique? Est-ce un fiasco pour le gouvernement? 32-16, si vous souhaitez participer au débat à 8h10, Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, sera avec nous sur RMC. On en vient maintenant à une hausse des prix. Une nouvelle, vous le constatez sur à peu près toutes vos dépenses, aucun secteur n'est épargné, et surtout pas celui des transports.
Plus 18,9% sur le prix des billets d'avion en un an, et ça devrait d'ailleurs encore augmenter. Plus 13% pour les billets de train, c'est ce que prévoit la SNCF. Et Marilyn Hotman, la compagnie ferroviaire, a donc entendu la demande du gouvernement et met en place un bouclier tarifaire pour éviter que les prix n'explosent en 2023.
Pas question d'augmenter les premiers prix des TGV Inouï, ni les tarifs des billets Ouigo.
Notre objectif, c'est de protéger les populations les plus sensibles, les jeunes.
Christophe Fanichet est PDG de SNCF Voyageurs.
Les Français ont besoin de gagner le plus possible de pouvoir d'achat.
Les augmentations cibleront les voyageurs des TGV Inouï sans carte de réduction et les tarifs entreprises. Et sur le quai de la gare Montparnasse à Paris, l'accueil est plutôt tiède.
Est-ce que vous avez la carte avantage?
Non, du tout.
On traverse la France, donc voilà, on n'est que deux, mais ça chiffre vite. Ouais. On comprend pas pourquoi le prix du train continue d'augmenter alors qu'on nous dit qu'il faut prendre le train parce que c'est plus écologique.
Est-ce que vous arrivez à avoir des petits prix avec votre carte jaune?
Ça revient quand même très cher. On pourrait faire encore plus d'efforts, selon moi. Moi, je suis étudiant. C'est un gros budget.
Autre annonce de la SNCF, pour échanger votre billet sans frais, il faudra s'y prendre une semaine et non plus trois jours à l'avance.
Une semaine, ça devient plus compliqué. Quand on a au dernier moment un petit souci, trois jours encore, c'était assez jouable.
Il va falloir bien l'anticiper.
La SNCF estime que ses conditions d'échange restent souples par rapport à celles du secteur aérien.
Et toujours concernant la crise énergétique, le gouvernement met une nouvelle fois la main à la poche pour les entreprises. 10 milliards d'euros distribués à ces structures d'ici la fin d'année 2023. Les entreprises qui peuvent s'inscrire dès aujourd'hui en se rendant sur le site des impôts, le site impots.gouv.fr. En bref, la fin du procès de l'accident de Mias en 2017. La conductrice du bus scolaire a été condamnée à 5 ans de prison, dont un an ferme. La collision entre le véhicule et un TER ont fait 6 morts et 17 blessés.
RMC, il est 6h04. Cet après-midi, ce samedi, des milliers de personnes sont attendues dans les rues pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles.
Démarche organisée par le collectif féministe Nous Toutes, objectif sensibiliser la population face à ce fléau. Le collectif qui réclame notamment une hausse du budget de l'État pour lutter contre ces violences. Les chiffres, ils explosent. Le nombre de viols ou de tentatives de viol a doublé en 5 ans. Et d'après le comptage tenu par Nous Toutes, ce sont 120 femmes qui ont été victimes de féminicides depuis le début de l'année. Et devant ces chiffres excessivement hauts, Diane Richard du collectif Nous Toutes appelle le gouvernement à l'action.
Une des revendications qu'on demande au cours de cette manifestation, c'est la création de brigades et juridictions spécialisées et formées, bien sûr, en matière de violences sexistes et sexuelles. Ça existe en Espagne, par exemple, et on sait que ça marche très bien parce que très souvent, en fait, les procès, les processus judiciaires prennent extrêmement longtemps, prennent des années parfois. Et d'avoir des juridictions spécialisées, ça permettrait déjà d'aller plus vite et surtout d'avoir des personnes qui sont spécialement formées sur ces sujets-là Et donc, ça permettrait de beaucoup mieux traiter ces affaires-là.
Le viol est-il un crime impuni en France ? Enquête RMC à 6h40 tout à l'heure. Et à 7h40, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, sera notre invitée sur RMC. Pour l'heure 6h05, on part au Qatar.
RMC. Coupe du Monde 2022.
J-1, les amis, avant le top départ de cette Coupe du Monde de football, le Qatar organisateur fait volte-face sur la bière.
La vente de bière autour des stades et en dedans sera tout bonnement interdite. Pas de bière, pas d'alcool, même pour les quelques 1,3 million de supporters attendus dans l'Émirat pour l'événement mondial. Et pour certains, pas de logement, car Doha n'en compte pas assez pour accueillir tout ce beau monde. Résultat, Martin Bourdin, les prix ont explosé.
Après la Russie en 2018, Edwin vit ici sa deuxième Coupe du Monde, mais ce Guatémaltèque le sait, il ne va pas autant en profiter qu'il y a 4 ans. Son logement, Airbnb, loin du centre de Doha, lui a coûté trop cher.
Je paye 1 500 $ pour 2 semaines, j'ai pas trouvé mieux. J'ai cherché, quand j'ai trouvé ça, je l'ai pris tout de suite, même si c'était très cher.
Un Anglais m'explique qu'on lui a demandé 20 000 $ pour une semaine en Airbnb. Les propriétaires en profitent aussi. En moyenne, les loyers ont augmenté de 15% sur un an. Ici, beaucoup d'habitants, comme Ismaïn, ont dû changer d'appartement.
Je payais 6 000 riyals, 1 500 €. Ils voulaient le passer à 2 500 €. C'était très transparent. Ils savaient qu'il allait avoir la Coupe du Monde, une année où il allait avoir beaucoup de monde. Donc oui, c'était totalement assumé sur le sujet.
Mais cette augmentation de la demande n'est pas la seule explication. D'après Anoum Hassan, elle suit l'évolution des loyers à Doha pour le cabinet Valustrat.
Le gouvernement ou le comité suprême qui organise le mondial a loué beaucoup de résidences, 30 à 40 000 environ. Alors quand vous enlevez tout ça du marché, bah forcément ça fait grimper les prix.
Selon ses projections, les loyers finiront par baisser à Doha, mais pas avant la fin de l'année prochaine, car ici les locataires s'engagent souvent pour un an.
Martin Bourdin, envoyé spécial d'RMC à Doha au Qatar. Côté terrain, Stéphanie Rock, ça a été le deuxième entraînement hier pour les Bleus. La pression monte, nous sommes maintenant à quelques heures de leur entrée en lice dans ce mondial.
Et ce sera contre l'Australie mardi prochain. En attendant, les Bleus ont installé leur camp de base à Doha. Le dernier entraînement avait lieu hier soir et la pression commence à monter dans les rangs tricolores. Lucas Hernandez, le défenseur, est impatient d'entamer la compétition.
On va commencer à préparer le match. On a tous hâte que ce match commence mardi. On a tous faim de commencer cette compétition et je pense que ça sera un match compliqué comme en 2018. En 2018, mes souvenirs, c'est que le premier match de la compétition, lequel on a eu du mal de pouvoir gagner ce match. Ce sera à nous de répondre présent sur le terrain et de bien commencer cette compétition en gagnant ce premier match.
Avant l'Australie, des zones d'ombre demeurent quant à la présence ou non de Karim Benzema et Raphaël Varane. Les deux joueurs se sont encore entraînés en marge du groupe hier. Ils suivent toujours en protocole de reprise après une blessure ischio. Pour rappel, Varane n'a plus joué depuis le 22 octobre dernier. La présence de Benzema sur un terrain a été plutôt sporadique depuis l'obtention de son ballon d'or. Une décision devrait rapidement être prise sur la participation des deux joueurs face à l'Australie.
L'autre info sport ce matin, ce sont les handballeuses qui ratent le coche. Élimination en demi-finale de l'Euro.
Une défaite 28-20 contre la Norvège, championne du monde et championne d'Europe. Les Françaises, comme lors du mondial l'an dernier, ont encore failli en deuxième mi-temps. Une énorme frustration pour le sélectionneur Olivier Crombols à l'issue de la rencontre.
On a du mal face à cette équipe, ils jouent bien, ils jouent vite. Physiquement, on n'y est pas assez et on s'est épuisé à faire des erreurs. Ils nous ont fait courir, on a eu du mal à faire le changement attaque-défense. Bref, ils nous ont mis la pression, ils ont joué mieux que nous. Il n'y a rien à dire sur cette défaite, mais je ne suis pas étonné. Quand on n'est pas à notre meilleur niveau, on n'a aucune chance d'aller battre.
Et en bref, dans le reste de l'actualité, la France du rugby qui jouera demain son dernier match de la tournée d'automne France-Japon. Ce sera à 14h au Stadium de Toulouse. La France qui aura la possibilité de rallonger cette magnifique série d'invincibilité. Déjà 12 victoires consécutives pour cette équipe de France. Rendez-vous compte, ils n'ont plus perdu les hommes de Fabien Galthié depuis l'été 2021.
Et on espère que ça se poursuivra. Ce sera à vivre, bien sûr, en direct sur RMC, la radio du sport. À tout à l'heure, Stéphanie, 6h30 pour le journal complet des sports. 6h09. On se réveille ensemble le samedi, le dimanche, la matinale week-end. Vous avez l'habitude désormais. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. J'en suis ravi. Ça va, Peggy ?
Mais ça va bien, Mathieu. On est ravis de vous retrouver.
Ouais, c'est vrai.
Et passé de bonnes vacances.
Et quelques petits jours de vacances. Oui, comme ça.
Bien reposé.
J'étais chez moi dans le Perche.
Ah !
Ça fait du bien.
Vous avez cueilli des champignons ?
Non.
Bah pourquoi ?
Bah parce que j'ai peur.
Peur de ne pas choisir les bons ?
Peur des chasseurs. Non, je vais me faire des ennemis. Non, c'est pas vrai. J'adore la forêt, mais je sais pas, j'y suis pas allé là. Bon. Je sais pas.
On est ravis de vous retrouver.
Je me suis reposé, voilà. Et vous, comment allez-vous? Venez nous retrouver. Tiens, David est avec nous dans l'Aveyron. Bonjour David.
Bonjour David.
Bonjour.
Comment ça va ce matin?
Heureux de vous rencontrer, David. C'est la première fois qu'on se parle.
Oui, habituellement, ce que je disais à votre collègue, j'appelle plus en semaine, mais là, le sujet m'a fait réagir un peu ce matin.
Le sujet
même
de...
Du coup, je vous appelle. Ben, au niveau des corridas. Donc,
ah oui, c'est un des sujets du matin. Manifestation. Alors, il y a les pros et les anti, hein, dans différentes villes de France, mais tout le monde en aura pour son argent, si j'ai envie de dire. Vous êtes dans quel camp? Vous faites partie d'un des deux camps, David?
Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai pas forcément d'avis sur ce sujet. Mais en fait, ce qui me fait réagir, c'est qu'en France, on est dans un état de liberté, hein, d'après tout le monde. Mais sauf qu'en ce moment, on a la liberté de se priver de tout. C'est que ce soit au niveau des religions, au niveau des crèches de Noël, là, ça fait encore débat dans les grandes gueules.
Oui.
Ça fait pour tout, en fait, on doit se priver pour une question ou une autre.
Les crèches, c'est la mairie de Beaucaire, la mairie de Béziers qui souhaite, oui, comme voilà, tous les ans, installer des crèches de Noël dans leur mairie, dans l'hôtel de ville, et ce qui est retoqué par la préfecture, le Conseil d'État qui leur donne tort. David, vous regrettez?
Ah oui, complètement. En fait, on est un pays de liberté, mais on est libre de se priver en fait de toutes nos traditions qui font la France. En fait, la corrida, c'est une tradition locale du Sud-Est. Pourquoi l'interdire si c'est la tradition?
Qu'elle continue d'exister, ça ne vous choque pas? La mise à mort des taureaux, David, ça ne vous choque pas?
Je pense que au niveau de la mise à mort, je pense qu'il faudrait plus se pencher sur les abattoirs où c'est qu'il y a des millions d'animaux qui sont tués sans étourdissement ni rien. Je pense qu'il y a la corrida, c'est 5000 taureaux, je crois, si je me trompe pas, d'après le sujet que j'en avais entendu parler il n'y a pas longtemps.
C'est à peu près
donc,
ça.
5000 taureaux contre des millions d'animaux qui sont abattus soit par conviction religieuse, soit par économie dans les abattoirs sans les étourdissements. Bon, je pense qu'il y a plus important.
Mais c'est pas une priorité en fait.
Attaché voilà aux traditions françaises, même si vous n'avez pas forcément d'avis tranché. Si jamais la corrida était interdite demain, bon David, ça ne vous choquerait pas non plus. Mais
non, voilà. Mais ça m'embête qu'on touche aux traditions locales, que ce soit au niveau des crèches, au niveau des corridas. Là, j'ai vu qu'ils voulaient relancer l'émission Interville sans les vaches.
Oui, oui.
Le prochain étape, c'est quoi? C'est le quintet sans cheval.
Mais je comprends votre point de vue.
C'est bête, en fait.
Je comprends votre point de vue et je suis pas loin de le partager. 32-16 ce matin, c'est intéressant. Vous n'avez rien à voir avec la corrida. Vous n'avez pas forcément d'avis, mais vous n'avez pas forcément envie non plus qu'elle disparaisse. Venez nous expliquer pourquoi, par tradition, comme David. Allez-y, 32-16 et l'application RMC. Merci, David. Bon courage. Vous êtes au boulot, là?
Oui, oui, je suis routier, là, dans le lait, en plus, donc travaille tout le week-end. Voilà.
Bonne courage.
Bon courage. Merci, on salue bien tous les routiers. Et merci de ce coup de fil le week-end. David, fidèle auditeur de la semaine, vous êtes aussi avec nous le week-end. Allez, dans un instant, on part sur la route, justement.
Et oui, le combat de 40 millions d'automobilistes contre les ZFE.
L'association fait étape partout en France pour demander un moratoire contre ces zones à faible émission, ces zones où il sera interdit de circuler avec un vieux diesel, les critères 5, 4 et bientôt 3. Est-ce que ça vous pénaliserait, vous, habitant du centre-ville? Vous vous rendez dans ces centres-villes avec une vieille voiture, vous ne le pourrez plus. On en discute dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
6h14, bienvenue sur RMC. Trois lettres à la une. ZFE, trois lettres qui provoquent parfois des montées d'urticaire chez les automobilistes. ZFE comme zone à faible émission. C'est l'association 40 millions d'automobilistes qui part en guerre contre ces ZFE, des secteurs où vous ne pouvez plus circuler déjà aujourd'hui en cas de pic de pollution. L'idée, c'est de le faire de manière pérenne, partout dans les grands centres-villes, pour tout le monde. À partir de 2023, les critères 5, c'est-à-dire les diesels d'avant 2001, n'auront plus le droit de circuler dans les centres des grandes villes. À partir de 2024, ce sera autour des critères 4, diesel d'avant 2006, puis des critères 3, diesel d'avant 2011 et essence d'avant 2006 en 2025. C'est-à-dire demain, vous avez une vieille voiture, vous ne pourrez plus vous rendre dans ces centres-villes. À Toulouse, on s'y prépare déjà avec cette grande question. Comment changer ma voiture si je n'en ai pas les moyens avec le coût de la vie qui flambe partout? Le reportage de la rédaction d'RMC est signé ce matin Estelle Henry.
7 ans qu'Hélène habite le quartier des Minimes situé au nord de la ville en pleine ZFE. Leur voiture est classée critère 3. Dans un peu plus d'un an, elle et son mari ne pourront plus rouler avec leur voiture.
Déjà, on a 3 enfants, on en attend un 4e, donc il nous faut forcément une grande voiture, même si on s'en sert que le week-end. et ça nous embête vraiment de la changer alors qu'elle est bien entretenue.
Une voiture en parfait état à revendre et un coût financier pour en racheter une que n'est pas en mesure d'assumer le ménage.
On est des très petits rouleurs, on roule même pas 100 km par semaine. Donc changer une voiture, je sais pas, mettre tant d'argent dans une voiture qui ne roule pas, on a l'impression d'être un peu pris à la gorge en fait, on sait pas trop comment on va faire.
Même chose pour Jamila, elle vient tout juste de s'acheter une voiture d'occasion de 2011 qui ne pourra déjà plus circuler à partir de 2024.
Je ne peux pas. J'ai pas les moyens pour acheter une autre voiture. On n'est pas tous riches. Si j'avais de l'argent, j'aurais dû racheter une 2020. Et c'est parce que je les ai pas.
Certains pourtant ont déjà pris de bonnes habitudes en attendant le mois de janvier prochain, comme Mila, étudiante à Toulouse.
Je trouve que c'est une bonne mesure dans le sens où du coup ça polluera moins. Donc moi je roule en Twingo de 1998, donc je pourrais pas rouler dans Toulouse effectivement. Donc je ne roule pas dans Toulouse, je prends les transports en commun et ça me va très bien. Même des fois je marche et puis voilà, on faut s'adapter quoi. C'est tout.
Des automobilistes qui tentent de s'adapter comme ils peuvent malgré des aides encore trop insuffisantes, selon Jean-Christian Mellet, directeur de l'Automobile Club du Midi à Toulouse.
Il y a un souci économique. Une transition sur un véhicule hybride ou électrique à l'heure d'aujourd'hui, ça coûte très cher. Les gens ne sont peut-être pas prêts encore. Ceux qui viennent juste de faire un crédit pour pouvoir changer de véhicule, ou des familles ou autres, dans nos villes, l'existence devient de plus en plus chère. Donc, c'est pas forcément l'option choisie par tout le monde. Donc, les gens vont le subir brutalement et dès le 1er janvier, de savoir vers quoi ils vont aller.
Conscient du problème, Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse, demande à l'État de doubler les aides pour l'achat de véhicules moins polluants.
Et l'association 40 millions d'automobilistes, merci beaucoup Estelle Henry, demande carrément un moratoire sur ces ZFE. Qu'en pensez-vous? On en discute ce matin avec vous, Gaël et Jean-Christophe sont déjà là. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Bonjour.
C'est à Rouen, Gaël, aide-soignant, oui. C'est cela?
C'est cela.
Vous vous déplacez dans le centre-ville en voiture?
Bah le CHU de Rouen se trouve à l'intérieur en centre, au milieu de la ZFE.
Donc pour aller bosser, vous êtes obligé de traverser le centre-ville avec une essence, un diesel?
Alors, j'ai un diesel qui est de 93.
Ouf. Ah oui, d'accord. Donc, okay. C'est déjà interdit, là?
Oui, la ZFE à Rouen est déjà mise en place.
Et
même
s'il
y a une tolérance jusqu'au mois de mars.
Comment vous faites, du coup?
Bah, j'ai la chance d'avoir pu me faire dépanner d'une voiture qui a une Critéra. Pour pouvoir aller bosser.
Vous avez envisagé de changer de voiture ou pas?
Oui, bah oui, j'ai deux solutions. Elles s'offrent à nous deux solutions. Là. C'est soit je change d'établissement, soit je change de voiture.
Oui, très clairement.
Très clairement, je n'ai pas les moyens. Parce que, en plus, il faut savoir que la mairie de Rouen avec M. Nicolas Maillard-Rossignol est un peu juste au boutiste sur les questions environnementales.
Oui, j'imagine en plus, Gaël, que vous avez souvent des gardes en horaire décalé. La nuit, il n'y a pas de transport en commun suffisant pour vous rendre sur votre lieu de travail.
J'habite à 25 km du CHU de Rouen. Il n'y a aucune offre de transport en commun. Si je peux partir le matin parce que ma garde me permet de prendre le bus le matin, mais je ne fais pas de bus pour rentrer le soir. Et inversement, si je suis les ouvertures de salle, j'ai pas de bus pour descendre.
Donc vous allez changer de voiture?
Voilà.
Combien? Vous avez déjà budgété tout ça?
J'ai de la chance, je rachète la voiture à ma fille. Je m'en tire très bien pour une Critère 2.
D'accord.
Mais c'est quand même un budget de 5 000 euros.
5 000 euros dans le contexte qu'on connaît, qui vient s'ajouter, quoi, Gaël. Hein,
voilà, qui vient s'ajouter à des salaires qui sont en panne chez nous pour la fonction publique hospitalière depuis plus de 10 ans, malgré le Grenelle qui a rien changé, qui n'a pas changé grand-chose sur nos feuilles de salaire.
Et voilà pourquoi certains parlent de future bombe sociale, parce que dans ce contexte-là, il va falloir pour des milliers, voire des millions de Français, changer de voiture pour continuer d'aller bosser. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour Jean-Christophe. Bonjour.
Vous êtes à Angers, ville qui, elle aussi, est déjà concernée, va l'être?
Si elle est concernée, je ne suis pas au courant. Je ne vois rien de spécial. J'habite en centre-ville, je n'ai pas...
Mais
elle doit être concernée, je sais, parce qu'elle fait plus partie des villes qui sont concernées, mais je ne pense pas qu'elle soit en place.
Mais vous pensez que c'est une bonne mesure, ces ZFE?
Bonne ou mauvaise, je ne sais pas trop, mais il faut bien faire quelque chose pour tout ce qui est écologie, tout ce qui est pollution. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en Europe, il y en a déjà 200, plus de 250, je crois.
Mm-hmm.
Et nous, en France, on en aurait 11, là. Alors, vous voyez, à Angers, je ne sais même pas si elle est en place. Et il ne se passe pas grand-chose, quoi, finalement, en France. Alors, je ne suis pas un écologiste, un ayatollah de l'écologie, mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose en France, quoi.
Et vous avez
chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est tout le monde est vendu debout, quoi.
Vous avez une voiture?
Oui.
Critère 2, j'imagine, ou 1?
C'est 2.
D'accord. Mais vous vivez en centre-ville, donc avec la, le, vous ne bossez pas loin de...
Non, j'ai une chance, c'est que je suis à la retraite depuis 6 mois.
Hein. D'accord.
Donc, c'est plus ce problème. Mais bon, après, la voiture, c'est vrai que depuis que je suis à la retraite, je m'en sers pratiquement plus. Hein. Sur Angers, je fais tout en transport en commun, ou à pied, ou en vélo. Hein. Donc, je m'en sers vraiment pour aller faire les courses le week-end. Et
donc, moins concerné et en même temps, ravi de pouvoir vous dire que vous avez peut-être mieux respiré grâce à ces zones à faible émission. Vous aimeriez, si je comprends bien, qu'il y en ait davantage en France. Qu'en pensez-vous ce matin, 32-16? Vous êtes dans la situation de Gaël. Vous ne pourrez bientôt plus aller bosser avec votre véhicule. Vous allez devoir le changer. Ou vous êtes comme Jean-Christophe, vous vous réjouissez de ces nouveaux espaces un petit peu moins pollué dans les grandes villes. On en parle avec vous et avec l'association 40 millions d'automobilistes. Merci à vous deux, Jean-Christophe, Gaël.
Bonne journée.
Bon week-end à vous à l'écoute d'RMC. Il est 6h21.
Dans un instant, la COP27 joue les prolongations. Toujours pas d'accord en vue.
Oui, alors on connaît l'urgence, c'est important. Anthony Morel va nous emmener en Polynésie pour nous donner un exemple très concret. Les îles Tuvalu sont sur le point de disparaître. C'est déjà demain dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
6h23, bienvenue. Allez, dans deux minutes, les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Le quintet, c'est à Auteuil aujourd'hui. Mais d'abord, parlons de ce pays menacé de disparition.
RMC, la matinale week-end. C'est déjà demain.
Alors que la COP27 doit s'achever ce soir, partons ce matin en Polynésie.
Pour bien comprendre l'urgence, les îles Tuvalu seraient les premières à disparaître si on ne fait rien. Bonjour Anthony Morel.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu. Bonjour.
Ces îles menacées par la montée des eaux, elles veulent se dupliquer virtuellement pour qu'on puisse garder une trace de leur existence.
Ouais, un jumeau numérique pour ne pas disparaître. En tout cas, virtuellement. Et c'est une annonce en forme d'appel au secours que lance cet archipel polynésien composé de 9 atolls qui compte 11 000 habitants. C'est un tout petit pays indépendant. Ça pourrait d'ailleurs être le premier pays au monde à disparaître d'ici 2100 à cause de la montée des eaux. Et donc l'enjeu, eh bien, ce serait d'utiliser le numérique et ce fameux métavers dont on parle beaucoup en ce moment, ce monde virtuel dans lequel on peut répliquer tout et n'importe quoi pour conserver une trace de ce territoire. Donc en fait, on cartographierait les villes, les paysages, on les reproduirait au pixel près pour que les générations futures sachent que ce pays a existé, à quoi il ressemblait. Bon, c'est aussi un coup de com' qui permet de mettre en lumière le destin tragique de ces îles, avec aussi d'ailleurs des enjeux politiques, parce que la disparition de ces îles, ça signifierait aussi la perte du statut d'État, de la souveraineté, des droits sur certaines zones économiques. Donc c'est une sorte de sauvegarde numérique qui va permettre de dire « Regardez, on continue d'exister, on est une nation ».
Et c'est, oui, là encore un peu extrême, mais ça prouve que le numérique est un outil de préservation du patrimoine. C'est extrêmement précieux tout ça.
Bien sûr, avec différents objectifs. Ça peut être une sauvegarde numérique d'un élément comme Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, où on va créer des jumeaux numériques très précis à partir de milliers de photographies. On va faire une modélisation très très fine qui va permettre, eh bien, à n'importe quel chercheur, par exemple à l'autre bout du monde, de visiter presque comme s'il y était, ou voyageur d'ailleurs, avec l'idée que eh bien, le numérique, c'est un outil de préservation en matière de patrimoine. Rien n'est jamais acquis. Tous les trésors peuvent être détruits, que ce soit par un accident, la guerre, l'urbanisation, l'usure du temps, qui est inéluctable, évidemment.
On connaît les copies des grottes, mais on peut aussi copier dans le numérique pour faire du tourisme.
Exactement.
Et éviter d'endommager les monuments.
Absolument. C'est vrai pour les monuments. C'est vrai aussi pour les villes. Par exemple, en Finlande, il y a Helsinki, Virtual Helsinki, qui est une réplique virtuelle de la ville qu'on peut visiter presque comme si on y était. Donc, visiter les rues, les monuments reproduits très finalement. En Corée, on a Metaverse Séoul qui va voir le jour. On aura un casque de réalité virtuelle sur la tête, on pourra se balader là encore dans des lieux touristiques, mais pas seulement. C'est-à-dire que les citoyens, par exemple, auront accès à certains services publics. On pourra, par exemple, porter plainte dans le Metaverse, c'est-à-dire aller à un poste de police virtuel et porter plainte. C'est un exemple parmi d'autres de tout ce qui va être rendu possible par ces nouveaux mondes numériques.
Merci Anthony, c'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Allez, les champs de course, 6h26.
La matinale week-end. Les courses RMC.
Avec la Dream Team, ce sur quoi il faut miser. Bonjour Dimitri Blanc-L'Œil.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous emmenez à Auteuil ce samedi.
Eh oui, direction le temple de l'obstacle pour commencer ce week-end avec une épreuve de steeplechase.
C'est quoi le steeplechase? Rappelez-nous.
Ben, il y a deux disciplines au niveau de l'obstacle. Enfin, il y en a même trois, pour être exact. Il y a les courses de haies, donc il n'y a que des haies. Il y a les courses de cross-country, où là, vraiment, on est sur des grands parcours avec des gros obstacles. Et le steeplechase, ce sont comme des haies, avec effectivement des obstacles un peu plus élevés aussi, l'open ditch, la rivière, etc. Voilà.
Bien. Votre dernier bruit, ce que vous nous conseillez de miser?
Eh ben Saint-Longy, c'est le numéro 3 pour sa régularité, voilà, qui reste sur 2-3e place. On sent qu'il a la capacité de gagner une épreuve de ce genre. Je pense vraiment que c'est une base solide et qu'il devrait jouer les premiers rôles.
Et si jamais il ne part pas ce numéro 3?
Alors ça peut arriver, hein, si on a un non partant de dernière minute. Je vous conseille le numéro 7, Singapore Trip, qui est un peu dans le même profil, qui reste sur 2 sorties avec une victoire, une 2e place. Lui aussi a tout à fait le droit de jouer la gagne.
Merci beaucoup Dimitri, on se retrouve à 13h pour les courses RMC. Dans un instant, bonne nouvelle, boulanger, agriculteur, petit patron, 10 milliards d'aides gouvernementales pour payer vos factures d'énergie. Comment en bénéficier? Le détail dans le journal de 6h30. À la une d'RMC, Stéphane Jeunesse, vous êtes patron d'une entreprise, vos factures d'énergie explosent, eh bien rassurez-vous, le gouvernement est à votre chevet.
Le ministère de l'économie ouvre ce matin un nouveau dispositif d'aide pour ces structures. 10 milliards d'euros au total distribués aux entreprises d'ici la fin de l'année 2023. Et on a eu dans le viseur de l'exécutif les PME particulièrement concernées.
Prenons l'exemple d'un boulanger qui a vu sa facture d'électricité tripler cette année et atteindre désormais 22 500 euros par mois. L'État lui versera une aide mensuelle de près de 4 000 euros. Autre illustration, un agriculteur dont la facture de gaz flambe, 87 500 euros, soit 10 fois plus qu'en 2021. Il touchera 26 000 euros d'aide mensuelle pour en bénéficier de conditions. Le prix de l'énergie doit avoir augmenté de 50% par rapport à l'an dernier et les dépenses énergétiques du mois de septembre doivent représenter plus de 3% du chiffre d'affaires. Bercy promet aussi de simplifier la demande d'aide avec moins de pièces justificatives demandées et les versements seront également plus rapide, entre 10 et 15 jours après le dépôt du dossier.
Mode d'emploi de ce dispositif, signé Anna Huot. À noter également le bouclier tarifaire mis en place par la SNCF pour 2023 à la compagnie ferroviaire qui limite la hausse des prix des billets de train à 5%.
5 ans de prison, dont une année ferme pour la conductrice du bus de l'accident de Mias.
En décembre 2017, un car scolaire entré en collision avec un train express régional. 6 collégiens tués, 17 blessés graves. Une condamnation de la conductrice de bus qui interroge du côté des familles des victimes, Jean-Wilfried Forquès.
Des soupirs et de l'incompréhension dans la salle et à la sortie de la colère. Cette peine de prison ferme aménagée à domicile ne passe absolument pas. Suzanne, la grand-mère de Jonas, une des 6 victimes.
Toutes ces familles qui sont meurtries, hein, qui sont en prison, eux ils sont en prison pour le reste de leur vie. Mon fils n'en relèvera pas. C'est une honte.
Pour Suzanne, pour son fils, ce jugement est difficile à admettre et leur avocate, maître Corinne Serfati-Chétrit, a déploré l'absence de la conductrice à l'audience, toujours soignée dans un établissement psychiatrique.
On joue pas aux fantômes. Quand on a causé un accident et maintenant il y a une certitude sur sa responsabilité, sa culpabilité.
Pour les familles, difficile d'oublier, explique Fabien Bourgeonnier, le papa de Loïc.
C'est pas possible de tourner une page comme ça. J'ai perdu mon fils. C'est une avancée par contre, c'est une continuité des choses.
Depuis le drame, Fabien a créé une association qui milite en faveur de la sécurité à bord des autocars scolaires.
Et puis le reste de l'actualité en bref, Stéphane.
L'avion de combat européen produit par Dassault et Airbus, pas encore prêt de prendre son envol, mais il va vraisemblablement voir le jour. La guerre en Ukraine et Kiev qui demande de l'aide à l'Union européenne. La moitié de ses infrastructures énergétiques ont été détruites. Et puis la plupart des migrants de l'océan Viking arrivés à Toulon la semaine dernière, libres ce matin. La faute à une justice totalement dépassée, c'est à la une de votre journal de 7h.
Eh bien, rendez-vous est pris. À tout à l'heure, 7h. 6h33, bonjour Stéphanie Rock.
Bonjour Mathieu.
RMC, le journal des sports.
La France est maintenant à 3 jours de son entrée en lice dans le mondial et il y a encore beaucoup d'incertitudes qui planent sur la probable composition de cette équipe.
Didier Deschamps a dû faire face à une pluie de forfaits ces dernières semaines, les plus marquants, ceux de N'Golo Kanté et Paul Pogba, qui laissent le milieu de terrain français complètement en fritch avec des joueurs peu expérimentés à ce niveau. Explication Arthur Perrault.
Oui, un véritable casse-tête pour le sélectionneur des Bleus. N'Golo Kanté et Paul Pogba forfait. Deschamps va devoir faire avec Vertu, Guendouzi et Fofana. Le nouveau patron du cœur du jeu s'appelle Aurélien Tchouaméni, un costume que le milieu de terrain endosse sans crainte.
Boss de l'équipe de France, pas boss de l'équipe de France, ça veut rien dire. Je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et de la pression supplémentaire par rapport à ça. Non, pas du tout. La pression, voilà, on la connaît depuis qu'on est tout jeune.
Une sérénité partagée par Adrien Rabiot qui fait lui aussi office
fils de taulier, titulaire au dernier Euro. Il profite de son expérience et de sa proximité avec Paul Pogba, son coéquipier à Turin.
On se voit au quotidien. On a pas mal parlé de la compétition, oui. Il m'a pas donné forcément de conseils, mais il m'a donné tous ses encouragements. Il a dit qu'il nous suivrait, comme je le fais à la Juve, d'essayer de tirer cette équipe et ce milieu de terrain plus particulièrement.
Un secteur pointé du doigt pour sa jeunesse. 24 ans de moyenne d'âge contre 27 ans et demi lors du deuxième sacre mondial en Russie.
Outre ses absences, Didier Deschamps devra peut-être aussi composer sans Raphaël Varane et Karim Benzema. Le vice-capitaine des Bleus et le Ballon d'Or continuent de s'entraîner à part. Ils se sont échauffés une vingtaine de minutes avec l'équipe avant d'être pris en charge par le préparateur physique pour un protocole de reprise qu'ils suivent scrupuleusement depuis leur arrivée à Doha. On en reparlera d'ailleurs avec notre journaliste sur place, Loïc Braillé, dans notre édition de 7h30.
Et puis le brassard. Concernant le brassard arc-en-ciel que devait apporter Hugo Lloris, le capitaine, c'est toujours l'imbroglio.
La Fédération française de football n'a toujours pas eu l'accord de la FIFA pour porter ce fameux brassard One Love contre les discriminations envers la communauté LGBT. Hugo Lloris, le capitaine, expliquait en conférence de presse vouloir se ranger derrière l'avis de son président Noël Le Graët en ne portant pas ce brassard. Le fonds de dotation des champions du monde, Génération 2018, a annoncé lui vouloir soutenir financièrement les ONG qui luttent pour le respect des droits humains au Qatar, mais plusieurs nations ont quand même décidé d'aller à l'encontre des règles de la FIFA. Harry Kane, par exemple, l'attaquant de l'équipe d'Angleterre, arborera bien le brassard arc-en-ciel pour le premier match de l'équipe d'Angleterre, même si la sélection est sanctionnée financièrement par l'instance. À suivre en tout cas ce mondial qui débute demain, et à événement exceptionnel, Mathieu, dispositif exceptionnel, RMC bouleverse sa grille de programme du 20 novembre au 18 décembre avec près de 300 heures de direct au plus près des joueurs. RMC a même installé un studio en plein cœur de Doha pour vous faire vivre le mondial comme si vous y étiez.
On a hâte d'être à demain. En attendant, l'autre grand titre sport ce matin, c'est la déception pour les handballeuses éliminées en demi-finale de l'Euro.
Battues par leurs meilleurs ennemis, les championnes du monde norvégiennes, défaite 28-20, une immense frustration alors que les Françaises réalisaient un sans faute depuis le début de la compétition. Explication Nicolas Paolorsi.
Plus que de la déception, c'est de l'incompréhension qui régnait après le match.
Saoulé de perdre contre la Norvège, clairement. C'est dur, on pensait que le match serait plus serré à la fin.
On prend l'eau, en jouant comme ça, on ne peut pas gagner contre la Norvège.
Même Olivier Crumbles, le sélectionneur, avait du mal à mettre des mots sur cette lourde défaite.
On déraille complètement. Aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus forts.
La France n'a jamais pu rivaliser contre sa bête noire, trop rapide, trop puissante. Les Bleus vont désormais devoir se contenter d'un match pour le bronze contre le Monténégro. La capitaine Estelle Nzeminko.
On va pas faire les princesses, hein. On a une médaille à aller chercher dimanche. On va tout donner pour aller la chercher et c'est pas simple, hein. Là, la 3-4, c'est bronze ou la place du bouffon, quoi. Donc ça ferait chier après une compétition pareille.
Une potentielle médaille au goût amer qui aura bien du mal à effacer la grosse déception de cette défaite contre la Norvège.
La France va devoir se remobiliser dès demain face au Monténégro. Programme le match pour la 3e place à suivre à 17h45.
Et puis en rugby, la France reste invaincue.
Et à l'occasion de finir cette tournée d'automne en beauté, dernière confrontation, ce sera contre le Japon demain au Stadium de Toulouse. Les Bleus n'ont plus perdu depuis 12 rencontres, un record. Alors le mot d'ordre demain sera de soigner sa sortie, Wilfried Templier.
Oui, quand le relâchement vous guette, surtout après cette incroyable lutte victorieuse face au champion du monde sud-africain samedi dernier, et bien chez les Bleus cette semaine, attention, on a sorti les gyrophares, piqûre de rappel de l'arrière Thomas Ramos.
Ça a été un peu le mot d'ordre de la semaine, hein, pour finir la tournée comme il faut, donc perdre ce week-end, ça serait un peu remettre en question ce qu'on a aussi peut-être fait les deux week-ends précédents. Donc voilà, je pense qu'on est focus sur ce match et on a envie de bien figurer.
Si le sélectionneur Fabien Galthié se méfie des Japonais...
Mais attention, en face il y a un adversaire qui est en capacité de poser des problèmes à n'importe quelle équipe du premier tiers, hein. Ils l'ont déjà fait.
Il veut surtout se servir de ces 3 matchs consécutifs, série plutôt rare, pour se projeter sur la phase finale de la Coupe du Monde. Une sorte de répétition pour 2023.
On va toucher du doigt ce qu'on va chercher à atteindre dans moins d'un an. On s'entraîne à vivre ce qui peut arriver. Ce 3e match, pour nous, il est la suite d'un quart, d'une demi. C'est une finale.
Vous l'aurez compris, le 15 de France veut donc s'entraîner à être champion du monde dès aujourd'hui, même si c'est assurément un plus gros calibre que le Japon qui se dressera l'an prochain lors d'une éventuelle finale mondiale.
Wilfried Templier, France-Japon, ce sera à vivre sur RMC, bien sûr, dès 14h demain. 6h38, excellent réveil à vous, la matinale week-end. Nous sommes en chambre jusqu'à 9h. Et
il est là!
Il est là, le coffre. Mais oui, le coffre RMC. Ça fait 15 jours, hein.
Oui.
Il nous accompagne. Qu'on vous gâte à l'occasion de ce mondial, Peggy Broche.
Eh oui, c'est le coffre de la Coupe du Monde. Alors, si vous voulez tenter votre chance, c'est maintenant qu'il faut nous envoyer un SMS. Vous envoyez coffre au 732-16. Alors, on dit ce qu'il y a.
Oui, bah oui.
On va tout dire.
Quoi, oui. Ouais, je joue par SMS.
Voilà, vous êtes sélectionné.
Je suis sélectionné.
Mathieu a une enveloppe dans la main. Et là, vous repartez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et le vidéoprojecteur portable. Ça vous permet de regarder tous les matchs ça, où vous voulez. En plus, donc ça, c'est super. Mais vous pouvez remettre votre cadeau en jeu. Et là,
et ouvrir
dans
le coffre,
il y a soit des AirPods.
Ouais,
soit la totale Coupe du Monde. Et dans la totale Coupe du Monde, il y a une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza, hey. Un mini bar, comme ça on est super équipé. Bref, donc vous pouvez gagner la totale. Ou alors, vous n'ouvrez pas le coffre. Mais enfin bon, si vous jouez, c'est pour ouvrir le coffre, non ?
Coffre par SMS au 732-16. Inscrivez-vous, il y aura forcément un gagnant ou une gagnante d'ici 9h. Coffre par SMS au 732-16. Bonne chance les amis. Raphaël est avec nous.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Artisan traiteur là-bas dans le Rhône.
C'est ça.
Vous nous écoutez depuis longtemps Raphaël ?
Bon, j'ai allumé la radio à 5h ce matin en arrivant.
Tranquillement, comme d'habitude.
Voilà.
À l'écoute des RMC toute la semaine.
Toute la semaine, toute la matinée, particulièrement les grandes gueules.
Eh ben voilà, il y en a pour tous les goûts sur RMC et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter RMC, j'en suis ravi Raphaël. Nous parlons des ZFE ce matin, les zones à faible émission. Dans les grands centres-villes, il sera impossible de circuler avec un vieux diesel ou une vieille essence dès le mois de janvier. Qu'en pensez-vous Raphaël ?
Bah, pour moi, c'est scandaleux. C'est de la privation. On veut faire consommer les gens, pour moi, c'est pas de l'écologie. Ouais, non, ça me rend dingue.
Vous, en plus, j'imagine, artisan traiteur, vous avez l'occasion de vous déplacer dans ces grands centres-villes.
Bah, j'y vais plus trop. J'ai travaillé pendant 15 ans, place Bellecour, à Lyon, alors en plein dedans, quoi.
Et ben voilà.
Je me mets à la place de ceux qui y travaillent encore. Pas forcément des gros salaires, et voilà, on n'a pas.
Et des artisans aussi qui n'ont pas forcément les moyens de renouveler leur flotte de camionnettes.
Même si actuellement j'ai les moyens, moi, j'ai pas envie. Je veux dire, non, les voitures roulent, on entretient.
J'ai le message d'Olivier sur l'appli RMC qui nous dit, moi, tant pis, je modifierai même mes plaques d'immatriculation s'il le faut pour pouvoir continuer de rouler avec ma vieille voiture. Marie nous dit, je suis d'accord, il faut faire des efforts, mais je reviens de Naples, là-bas, l'écologie, c'est loin d'être un souci. Trop peu de monde joue le jeu. Vous avez l'impression qu'on nous demande toujours et encore des efforts, Raphaël ?
Ah bah oui, oui, et puis depuis que je suis artisan, je m'en rends encore plus compte, quoi. On nous demande l'énergie, il y a un moment c'est plus possible. Moi je pense qu'il faut dire non à pas mal de choses et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des, je dirais pas le mot, mais voilà quoi.
On aura compris Raphaël. Moratoire, demande l'association 40 millions d'automobilistes. Arrêtons ces ZFE. Vous êtes pour, vous êtes contre. On poursuit le débat, bien sûr. Le 32-16 est ouvert. Salut Raphaël, bon courage.
Oui, bonne journée.
À bientôt et merci d'être à l'écoute d'RMC. Dans un instant, ce chiffre à la une.
94 000. Chaque année en France, 94 000 femmes se déclarent victimes de viol ou de tentatives de viol.
Et le collectif Nous Toutes appelle à manifester en France ce samedi pour mettre fin à l'impunité. Mais est-ce que le viol est vraiment impunité en France? Quelle est la réalité du traitement judiciaire? Pourquoi c'est si difficile de réunir des preuves en cas de viol? Enquête RMC très fouillée dans un instant.
RMC, la matinale week-end. Mathieu Roux.
Excellent réveil, 6h44 sur RMC. Ce samedi est marqué par une nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel du collectif Nous Toutes pour en finir avec l'impunité dans les dossiers de viol.
L'enquête RMC.
Alors la justice est-elle efficace ? Quel est le traitement judiciaire des viols, des agressions sexuelles en France ? On va essayer de savoir et comprendre avec Marion Dubreuil, service police-justice d'RMC. Marion, d'abord ce chiffre, selon l'INSEE, chaque année 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol. Pourtant, seuls 10% d'entre elles déposent plainte.
Ça, c'est le premier écrémage, Mathieu. Ça s'explique notamment parce que dans la majorité des cas, les victimes connaissent leur agresseur, c'est le plus souvent leur compagnon. Ensuite, deuxième étape, ce sont les procureurs qui font le tri. 70% des dossiers de viol sont classés sans suite, comme celui de Marie. Elle a déposé plainte l'an dernier contre un collègue.
Quand je reçois le classement sans suite et quand je reçois le dossier pénal dans son intégralité, je me rends compte que rien n'a été fait du côté de la sphère professionnelle. L'ordinateur professionnel n'a pas été saisi. Le bureau dans lequel des viols ont été commis n'a pas été visité. D'autres collègues n'ont pas été auditionnés. C'est donc ça. En fait, je vis l'injustice que vivent un paquet de victimes Je suis écœuré, je suis anéanti. Même si j'avais conscience que ça allait être difficile, j'étais pleine d'espoir. Et là, tout d'un coup, bah, je me suis dit, en fait, ce gars a gagné, bah, il va continuer.
Des récits comme celui de Marie, il y en a donc des dizaines de milliers par an. Pourquoi ces classements sans suite, Marion ? Quelles sont les raisons invoquées par la justice ?
Eh bien, il y a des raisons objectives. La prescription, par exemple, ou bien l'irresponsabilité pénale d'un mis en cause. Mais la majorité des classements sans suite portent la mention « infraction insuffisamment caractérisée ». Écoutez les explications d'Aurélien Martini. Il est vice-procureur au tribunal de Melun et membre du bureau national de l'USM, l'Union syndicale des magistrats.
Bien souvent, ces infractions sont commises dans un huis clos, avec assez peu de témoins, peu de vidéosurveillance. Donc il faut arriver à travailler sur la psychologie, sur les postures. Dans l'immense majorité des cas, on classe pour des problèmes de preuve. J'ai classé des dossiers en me disant, je pense que telle personne a effectivement commis les faits, mais je n'ai pas les éléments suffisants. Dans un état de droit, la présomption d'innocence commande dans ce cas-là de ne pas poursuivre, de classer. Et le travail, ça n'est pas d'envoyer des gens devant les tribunaux pour qu'ils soient relaxés. L'idée, c'est quand même d'envoyer des dossiers suffisamment solides pour arriver à des décisions de condamnation.
D'accord, mais comment faire quand il n'y a pas assez de preuves ? Les plaignants ont-ils des recours, Marion ?
Les victimes peuvent se constituer partie civile pour obtenir la nomination d'un juge d'instruction et relancer ainsi les investigations. C'est ce que conseille l'avocate spécialisée dans les violences sexuelles, Élodie Thuayon-Hibon, avec un bémol.
Ça fait reposer finalement la charge de l'action à nouveau sur la victime. Les dossiers de violences sexuelles, il y a des preuves de toutes sortes. Il y a des témoignages, il y a des messages, il y a de l'ADN, il y a des semi-aveux. Enfin, il y a tout comme dans tous les autres dossiers. Ces histoires de parole contre parole, franchement, c'est une mythologie en fait.
L'an dernier, la justice a prononcé 1413 condamnations pour viol, un chiffre plus ou moins constant depuis 10 ans.
1413 condamnations, 94 000 femmes chaque année qui déclarent avoir été victimes de viol. Merci Marion Dubreuil, votre enquête à retrouver sur rmc.fr. À 7h40, la ministre déléguée à l'égalité homme-femme, Isabelle Rome, ancienne magistrate, l'invitée d'RMC tout à l'heure. Il est 6h48. Florian nous appelle dans l'Aude. Bonjour,
bonjour
Florian.
Bonjour.
Vous êtes apprenti DJ, Florian.
C'est ça.
Beau métier. Pourquoi apprenti ?
Oui,
ben oui, j'allais dire, ça existe.
Ben en fait, oui, il y a 3 écoles en France, dont une qui vient d'ouvrir à Port-Barcarès.
Ah oui.
Et donc c'est assez rare, ça sort du commun. Quoi.
Donc vous apprenez à l'école une formation pour devenir DJ.
C'est ça, tout à fait. Alors c'est pas que DJ, c'est aussi tous les métiers qui tournent autour, donc tout ce qui est communication, aussi culture musicale, aussi vidéo.
C'est quoi, c'est 2-3 ans après le bac?
Alors c'est après le bac, mais alors moi pour mon exemple à moi, je n'ai pas le bac, mais j'ai quand même pu y rentrer en fait parce qu'il fallait juste un avis favorable d'autres patrons.
Vous ressortez de là avec un diplôme.
Voilà. Alors on sort avec un diplôme, je sais plus exactement le niveau, mais je sais que c'est exactement comme un BTS.
D'accord.
J'aurais trop aimé apprendre à être DJ. C'est excellent ça.
J'étais sûr que Peggy Broche allait être intéressée.
Ah mais ouais, il y a une école pour ça. Vous vous rendez compte, les temps ont changé, c'est bien.
Vous savez déjà comment vous allez vous lancer ensuite, Florian?
Oui, bien sûr. Moi, je suis apprenti en boîte de nuit,
ouais.
Parce que j'y allais la partie entreprise et la partie à l'école.
Ouais.
Et derrière, j'espère continuer dans cette structure-là. Quoi.
Et j'imagine que c'est pour ça que vous nous écoutez tôt le matin, parce que vous avez bossé toute la nuit.
Et pas encore couché.
En fait, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai une heure de route et j'ai peur de m'endormir.
Ouais.
Et en fait, quand je vous écoute, je trouve que ça...
Ça vous maintient éveillé.
Ça me maintient éveillé parce que c'est pas comme quand on écoute une musique, parce que déjà quand on a passé 5 heures en boîte de nuit, on n'a pas forcément
l'habitude
de
la musique.
Et en fait, surtout, ça me pousse à réfléchir, à réagir au débat et aux questions que vous posez. Et du coup, c'est intéressant, je trouve.
Vous pouvez pas mieux résumer RMC, Florian. Du lundi au dimanche, de 4h30 à minuit, tous les débats sont sur la table, que ce soit le sport, les informations générales. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'en suis sûr, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci, Florian, de ce petit coup de fil.
Eh bien, il n'y a pas de quoi.
Bon courage
bientôt,
sur la route.
À bientôt, Florian. Je sais que vous vouliez nous parler de la corrida, parce que ça fait partie des sujets qu'on évoque. On va continuer de l'évoquer. Florian, si vous n'êtes pas couché tout à l'heure, 8h40, il y a un défenseur de la corrida qui sera avec nous. Vous voulez participer au débat, vous faites comme Florian, 32-16. Il est 7h10.
À suivre dans la matinale week-end.
Du foie gras, c'est fini à Buckingham Palace. Deux retours très attendus, celui de Renaud et de Miss Cagol. Rien à voir avec la choucroute, mais c'est quand même vos histoires du week-end dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Dès demain, la Dream Team Foot prend le contrôle d'RMC.
Un point Coupe du Monde tous les quarts d'heure. Dès 14h, tous les matchs en intégralité. Des débriefs, des infos exclusives. Et bien sûr, l'After Foot jusqu'à 1h.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Votre émission sur RMC avec les peintures Seigneurie. La performance pour un monde durable.
Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Avec nous, Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On démarre avec un témoignage particulièrement révélateur des problèmes d'addiction, celui de Paul.
J'ai débuté les paris sportifs à mes 18 ans. Très vite, j'ai eu un gros gain. Je pariais non-stop. Je l'ai caché à mon entourage. Ça a duré plus de 9 ans et je me suis retrouvé à une situation de surendettement.
Mohamed Bouafsi, votre analyse ?
Quand il commence à jouer, Paul, il est très jeune. Qui dit jeunesse, dit vulnérabilité. Et après ça, on tombe dans le jeu compulsif. L'engrenage, on croit qu'on peut gagner facilement et rapidement de l'argent.
Laurent Carilla, comment on tombe dans le jeu problématique ?
Il y a d'abord ce gain avec des émotions difficiles à gérer. Il y a d'autres étapes qui s'ajoutent. La perte, l'espoir de se refaire. Et l'étape d'après, c'est le désespoir avec ses conséquences. Tous les joueurs, même modérés, peuvent basculer dans le jeu problématique.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
RMC, la matinale week-end.
Soyez les bienvenus, 6h52. Vous voulez rester éveillé comme Florian, vous voulez du débat, vous allez en avoir. Est-ce que voyager est devenu un luxe en France ? À vous de nous dire vos réactions au 32-16, vos témoignages, surtout vous renoncez peut-être à certains déplacements. En train, plus 5% dès janvier prochain. En avion, c'est déjà plus 19% depuis un an. Allez-y, on attend vos réactions, vos témoignages et on en parle à 7h10. D'abord, on se détend.
Les histoires du week-end.
Avec le trio magique Pays Broche, Margot Bourdin, Stéphanie Rock. Ça va, mesdames ?
Oui, bien.
Margot, nous partons à Buckingham Palace.
Absolument.
Le foie gras est banni de la table de Noël.
Et oui, fini la bamboche, place à l'écologie et à la cause animale. C'est ce que nous apprend ce matin l'AFP qui s'est procuré un courrier envoyé par le nouveau roi Charles III à l'association PETA, association qui défend la protection des animaux. Dans cette lettre, Charles assure que le foie gras est désormais banni de toutes les tables de toutes les résidences royales et il affirme que ce n'est pas prêt de changer. Les têtes couronnées changent, tout comme les temps, Mathieu. Oui, parce qu'on servait bien du foie gras à Buckingham sous le règne de la mère de Charles.
Mais elle aimait ça, Lilibet.
Absolument, Elisabeth II était une grande amatrice. En réponse à son courrier, l'association PETA lui a envoyé une boîte de faux gras. Un foie gras végétal vegan d'un chef londonien. L'association encourage tous les Britanniques à prendre exemple sur leur roi pour Noël et pour après. Alors, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, on consomme beaucoup de foie gras pour les fêtes, mais que la production est interdite. En tout cas, on ignore encore si dans les prochaines années, les huîtres, le saumon fumé et les chaperons seront eux aussi bannis des banquets royaux. Le nouveau roi milite en fait depuis longtemps pour la cause environnementale. Il publie par exemple tous les ans son bilan carbone. Il ne mange de la viande que certains jours et défend le bio et l'agriculture durable. Mais il est loin d'être parfait. On sait qu'il chasse, qu'il part aussi en vacances au ski tous les hivers et qu'il se déplace régulièrement en jet privé.
On a toutes nos petites contradictions. Du faux gras à la place du foie gras.
Est-ce que ça vous dit, vous?
Non,
pas Noël. Du tout.
Non.
Le nom ne fait pas rêver, en tout cas.
C'est comme les steaks végétaux, là.
Ah oui.
Le steak de brocoli, par exemple.
Plein d'eau et plein de sel.
Bah, exactement. 6h54, vous voulez nous parler d'un concours de beauté, Stéphanie Rock, qui ne veut surtout pas se prendre au sérieux.
Est-ce que vous avez déjà rêvé, Mathieu, d'être élu Miss Cagole?
Oh bah
ou
oui.
Ou Margot, ou Peggy.
J'en rêve, bien sûr.
N'est-ce pas? Alors oui, le nom fait sourire. La Cagole, c'est un sobriquet assez péjoratif qui désigne les jeunes femmes un peu extraverties, un peu écervelées et vulgaires du sud de la France, pour reprendre précisément la définition qu'en donne le Petit Larousse. J'ai vérifié. Une marque de vêtements et d'accessoires basée à Marseille a d'ailleurs justement décidé d'utiliser ce nom, lourd de sens, mais en prenant complètement le contre-pied du cliché. La marque s'est spécialisée dans les vêtements unisex et éthique. Alors, on n'est pas du tout sur du gros maquillage qui colle, hein, vous voyez ce que je veux dire, et des vêtements ultra flashy et très décolletés comme on pourrait l'imaginer. Et pour aller plus loin, cette marque a décidé de relancer un défilé de Miss Cagole qui existait, figurez-vous, il y a une vingtaine d'années, dans les années 90. Alors, bien sûr, toutes les tailles, tous les poids et tous les genres sont acceptés. Mmh. Les participantes devront satisfaire au traditionnel défilé, le discours. Petite subtilité pour ce concours de Miss, pas comme les autres, il y aura aussi une performance libre. Alors, si vous voulez danser, chanter ou pourquoi pas vous improviser humoriste avec un stand-up. Il y en aura pour tous les goûts. La Miss Cagole sera ensuite choisie à l'unanimité des juges. Ici, ce sont Jeanne-Pierre Boucan et Geneviève de Fond de Teint qui officieront. toute ressemblance avec des personnes existantes sera bien sûr fortuite. Les futurs Cagole ont jusqu'au 30 novembre pour candidater directement sur le site du magasin. Et puis la très officielle cérémonie aura lieu, elle, à Marseille le 9 décembre prochain.
Je vous inscris direct.
Vous viendrez avec moi ?
Allez, on y va. Peggy Broche, il est de retour.
Eh oui. Renaud, il avait pourtant dit ne pas vouloir faire de tournée pour son dernier album Metech, c'était le 18e. Eh bien, finalement, il a changé d'avis et les fans auront le plaisir de le voir sur scène en 2023. Trois dates parisiennes, suivies d'une tournée sur toute la France. La tournée s'appelle Dans mes cordes, une tournée en toute intimité, accompagnée de son ami Alain Lanty au piano et d'un ensemble d'instruments à cordes. Le chanteur aux 20 millions d'albums. L'album vendu est toujours debout, ouverture de la billetterie, lundi 21 novembre à 10h.
Entre lui et les deux Michel, c'est retour vers le futur ce week-end.
C'est clair.
Paul Naref et Sardou qui reviennent aussi en tournée. Allez, on se retrouve dans une minute, toute votre météo et les infos de 7h, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.